RCF.
Ce chant est mondialement connu car il est l'un des plus célèbres gospel. Il a beau célébrer un jour heureux, il s'enracine comme tous les chants du gospel dans une histoire tragique que nous allons retracer avec vous, Sébastien Fatt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste du protestantisme et en particulier du protestantisme évangélique. Vous êtes chercheur au CNRS. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et notamment Gospel et francophonie, paru en 2016 aux éditions Empreintes Temps Présent. Avant le gospel, il y a le négro spirituel. Est-ce que c'est là que tout a commencé, Sébastien Fatt?
Tout a commencé avec l'expérience tragique de l'esclavage. On ne peut pas comprendre cette musique, son déploiement, sa popularité encore aujourd'hui, indépendamment de la souffrance d'où elle est issue. Cette musique est en réalité une réponse à une souffrance presque indicible. C'est la souffrance de l'esclavage. Et il faut rappeler à cet égard la traite transatlantique, le commerce triangulaire, 12 millions d'êtres humains qui, en quelques siècles, ont été vendus comme des marchandises.
Venant d'Afrique, hein, bien sûr.
Venant d'Afrique, effectivement, d'Afrique de l'Ouest en particulier, qui ont été vendus par des marchands européens, vendus dans les Caraïbes, vendus dans les Amériques. Et c'est de cette souffrance-là qu'est née cette musique.
Est-ce qu'il faut faire donc remonter le gospel, mais avant ça le négro spirituel, au XVIe, XVIIe siècle?
On ne peut pas parler de spirituals à cette époque, évidemment. Mais c'est à partir de là, dans la construction sociale de cette histoire, qu'on peut comprendre l'émergence des spirituels. Alors comment les choses se sont passées? Il faut d'abord rappeler que lorsque les esclaves arrivent dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, ils sont totalement désocialisés. On les sépare de leur famille, on les sépare de leur groupe ethnique, on les sépare également de leur groupe linguistique, on leur donne un nouveau nom au travers d'un processus qu'on appelait le seasoning, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait totalement couper l'être humain de ses racines. Et du coup, la seule chose qui reste, c'est ce qu'on appelle les biens immatériels, la prière, la spiritualité, la musique, le rythme. Et c'est à partir de là que graduellement, dans les populations afro-américaines, se sont développés d'abord ce qu'on appelle les working songs, donc des chants rythmés qui permettaient tout simplement aux travailleurs serviles de tenir le coup, de travailler, de s'encourager. Ce sont des chants a cappella, répétitifs, très rythmés.
Dans quelle langue ?
Alors dans diverses langues, hein, dans
les
diverses
langues
qui petit à petit évidemment s'acclimatent à l'anglais, hein, ces chants s'anglicisent. Et ces working songs vont rencontrer au XVIIIe siècle, la spiritualité chrétienne. Alors ça va pas se faire en un jour, mais on peut dire schématiquement qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, les premières black churches émergent. La plupart d'entre elles sont clandestines parce
sont des églises pour
les afro-américains, absolument. Dans un contexte où l'Amérique du Nord est confrontée à des changements considérables, c'est l'époque de l'indépendance américaine, du désétablissement religieux, donc il n'y a plus de religion officielle, et l'anglicanisme en particulier, qui dominait jusque-là dans le sud des colonies américaines, laisse place à un nouveau type de spiritualité chrétienne qu'on appelle le protestantisme évangélique, porté principalement par les églises baptistes et par les églises méthodistes. Et une des particularités de ce protestantisme, c'est qu'il est très populaire. Il est fondé sur des communautés locales, solidaires, avec un caractère effectivement donc très populaire, et il va rejoindre les besoins sociaux, les besoins spirituels de ces esclaves, et beaucoup d'églises afro-américaines deviendront baptistes et méthodistes. Et c'est au sein de ces églises que la rencontre se fait entre les working songs et le référentiel chrétien. Mais cette rencontre va se faire sur quelle base? Elle va se faire surtout autour d'un texte, en l'occurrence, de la Bible, qui est le livre de l'Exode, qui raconte en particulier l'émancipation du peuple hébreu.
Donc l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament, l'Odyssée de sortie d'Égypte avec le prophète Moïse qui conduit donc son peuple servile à la liberté, à la terre promise. Et évidemment, il va s'opérer une forme de fondu enchaîné entre cette référence lointaine à l'esclavage du peuple juif émancipé vers sa terre promise et l'esclavage contemporain des Afro-Américains. Ils vont se reconnaître dans cette Odyssée. Et les premiers chants qu'on va appeler spirituals vont mettre en avant cette thématique de libération qu'on trouve en particulier dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament.
Ce sont des personnes christianisées assez profondément ?
Oui, la christianisation s'est opérée de manière effectivement assez profonde. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça dépend des communautés, ça dépend des individus. Mais la référence chrétienne est forte, effectivement, dans cette musique. Mais je dirais, encore une fois, avec un accent quand même sur l'Ancien Testament. Parce que l'esclavage, il est toujours là. La souffrance, elle est toujours là. Et il s'agit de se projeter vers un futur qui est espéré, évidemment, mais qui n'est pas encore là. Donc on est dans cette tension prophétique. Et le renvoi à Moïse, « Laisse partir mon peuple, let my people go », est absolument fondamental dans ces spirituals qui se développent au cours du 19e siècle.
In Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
So the Lord said, go down,
go down.
Moses,
way down
in Egypt land, tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
La suite de l'histoire.
D'un point de vue, disons, un peu technique sur le plan musical, les mélodies, le rythme, etc., ça s'enracine dans quel type de tradition, dans quel type de culture ?
Alors, il y a un certain nombre de références aux musiques d'Afrique de l'Ouest. C'est tout à fait évident et cela transparaît en particulier au niveau du rythme. Il faut rappeler que les esclaves nord-américains n'avaient pas droit aux instruments. Et donc, quand on n'a pas d'instrument, qu'est-ce qu'on fait ? On va se servir de son corps, on va se servir de ses pieds, de ses mains, avec toutes sortes de techniques de clapping. Et donc effectivement, il va y avoir une translation d'Afrique de l'Ouest vers l'Amérique du Nord sur la base de ces rythmes. Et les musicologues aujourd'hui nous apprennent à quel point la transmission s'est faite. Tout n'a pas été créé ex nihilo en Amérique du Nord. Il y a eu une transmission importante via en particulier la rythmique. Par ailleurs, c'est une musique très répétitive, une musique a cappella, on l'a déjà dit, hein, qui est faite pour encourager, pour être mémorisable facilement, pour être répétée et pour encourager au fil des heures de travail servile, interminable.
C'est un exutoire aussi.
C'est un exutoire.
Donc on chante à l'église et on chante au travail.
On chante à l'église, mais on chante surtout en dehors des églises, à vrai dire, puisque, rappelons-le, la plupart des black churches à l'époque sont clandestines. Elles n'ont pas toujours pignon sur rue loin de là, jusqu'à la fin de l'esclavage, hein, 1865. Et donc on chante davantage en dehors de l'église qu'à l'église. Ça, c'est une particularité aussi au départ des spirituals.
Et on chante ensemble.
On chante ensemble, effectivement, c'est un chant communautaire.
Qui est toléré par les maîtres.
Oui, les maîtres tolèrent ces chants dans la mesure où ils se rendent bien compte que ça permet aussi à la main-d'œuvre de garder espoir, de travailler avec un peu plus d'entrain et plus d'énergie. Donc de ce point de vue-là, effectivement, les esclavagistes acceptent cette musique. En même temps, ils s'en méfient un petit peu aussi, notamment sur la question de ces rythmes qu'ils ne comprennent pas. Ils se demandent parfois s'il n'y a pas des messages codés, des messages cachés qui encourageraient éventuellement les esclaves à la rébellion, d'autant plus qu'au niveau des paroles de ces chants, la thématique de l'émancipation, la thématique de la libération, elle est bel et bien présente. Alors certes, cette thématique est totalement comprise à l'intérieur du référentiel chrétien, et comme les maîtres se revendiquent eux-mêmes comme chrétiens, ils ne peuvent pas comme cela désavouer le contenu de ces chants. En même temps, ils se rendent bien compte que effectivement, il y a une aspiration à l'émancipation, et ça ne leur fait pas plaisir, de toute évidence.
Puisque les négros spirituels Sébastien Fats se chantaient dans les chants de coton et de manière assez informelle, tout s'est transmis de manière orale ?
Alors au départ, effectivement, tout s'est transmis de manière orale, mais à partir de l'émancipation, cela a été mis par écrit. Donc on dispose aujourd'hui de nombreuses partitions qui nous permettent d'avoir une idée très précise de la manière dont ces chants pouvaient être interprétés au départ dans leurs conditions sociales d'origine. On peut signaler aussi, peut-être du point de vue bibliographique, le travail extraordinaire de Bruno Chenu et le travail extraordinaire aussi de Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française, qui a publié dans les années 60 un très bel ouvrage aux éditions NRF Gallimard qui présente la spiritualité de ces chants. Et c'est une œuvre majeure qui a fait connaître au grand public en France l'intérêt de ces chants, au-delà simplement de la dimension, je dirais, musicologique, esthétique. Elle a montré que derrière tout cela, il y avait aussi beaucoup de spiritualité, beaucoup de souffrance, une très grande profondeur. Et donc je recommande vraiment la lecture de cet ouvrage de Marguerite Yourcenar aux éditions NRF Gallimard.
Sébastien Fats, on a parlé de Negro Spirituals dans notre premier entretien. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas encore de gospel ?
Alors parce que le gospel, c'est du spirituals plus. Alors on va expliquer ce que ça signifie.
Le processus qui a conduit au gospel.
Le processus qui a conduit au gospel, absolument. Alors ce processus, il est intimement lié à l'histoire particulière des États-Unis, avec le processus d'émancipation, la fin de l'esclavage à l'issue de la guerre de sécession en 1865. Et à partir de là, les Black Churches, les églises afro-américaines, qui pour beaucoup d'entre elles étaient plus ou moins clandestines, s'affichent désormais. Ces chants qui étaient plus souvent interprétés à l'extérieur des églises entrent triomphalement dans les églises. Désormais, les instruments sont tout à fait autorisés, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc les instruments s'ajoutent aux spirituals. Avec l'émergence de cette musique instrumentale qui vient porter les chants a cappella et nourrir ces chants, il y a aussi d'autres référentiels qui rejoignent, en particulier évidemment la référence au Nouveau Testament, à la nouvelle naissance, à la conversion, à la résurrection. Toute cette bonne nouvelle de l'évangile, rappelons que gospel ça veut dire évangile, ça veut dire bonne nouvelle, donc c'est une référence au message central du Nouveau Testament, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eh bien cette bonne nouvelle, elle s'affirme désormais dans cette musique parce que la bonne nouvelle de l'émancipation, elle est là aussi. Ça y est, l'esclavage c'est fini.
C'est fini.
Les populations afro-américaines peuvent enfin goûter cette liberté tant espérée. Et du coup, on n'est plus simplement dans la réalité de l'Ancien Testament, de cette attente d'une libération. On y est. D'où l'importance de l'évangile, l'importance de la grâce, l'importance de la référence à Jésus-Christ. Et donc ces spirituals vont s'enrichir de ces apports du Nouveau Testament. Et du coup, c'est plus tout à fait des spirituals, ça devient autre chose. Ça devient du gospel. On peut rappeler peut-être les quatre critères qui permettent de définir ce que c'est que le gospel. Alors d'abord, c'est une musique qui est faite pour être chantée, comme les spirituals. C'est d'autre part une musique qui est accompagnée d'instruments, et là c'est une différence par rapport aux spirituals. C'est par ailleurs une musique qui est communautaire et qui est faite pour l'église. Et ça c'est davantage vrai pour le gospel que pour les spirituals. Et puis évidemment, quatrième critère qui permet indubitablement de reconnaître le gospel par rapport aux spirituals, c'est la référence centrale au Nouveau Testament, à Jésus-Christ et à la grâce qui libère.
Donc, acte de naissance du gospel, fin 19e.
Dernier tiers du 19e siècle, effectivement, le gospel commence à s'affirmer graduellement, même s'il faut attendre, je dirais, l'entre-deux-guerres, au 20e siècle, pour que véritablement on identifie complètement ce genre, qui va être porté par de nombreux groupes. Alors l'un des premiers, c'est les Fisk Jubilee Singers, qui est un groupe d'étudiants afro-américains du sud des États-Unis, qui pour aider au financement de leur université, eh bien, vont constituer une chorale. Ils vont commencer par interpréter des cantiques classiques, ça va pas très bien marcher. Et puis, puis ensuite, ils vont interpréter des spirituals et interpréter ce qu'on appellera plus tard du gospel. Et là, les publics se précipitent.
Un peu partout aux États-Unis ?
Un peu partout aux États-Unis et au-delà, puisque cette chorale va se produire en Europe et va notamment intervenir d'ailleurs en France dans les années 1870. Donc le genre commence à émerger à partir de ce moment-là, mais il connaît véritablement une explosion dans les années 1930 aux États-Unis.
Pourquoi ?
Où là, il devient vraiment un genre majeur dans un contexte où la question de la ségrégation devient de plus en plus brûlante.
Parce que l'esclavage a disparu,
l'esclavage
mais la ségrégation,
a disparu,
elle,
mais en revanche,
s'est
imposé aux États-Unis le principe qu'on appelle « separate but equal », séparés mais égaux. En réalité, c'était séparés et inégaux. Il y a une situation un petit peu de société à deux vitesses. Et il y a une montée des tensions graduellement au cours du XXe siècle. Et la musique gospel va porter les communautés afro-américaines dans leur travail de mobilisation, dans leur mise en réseau, dans l'encouragement aussi, tout simplement, des populations qui, certes, sont libérées de l'esclavage, mais qui sont confrontées à des problématiques sociales souvent très difficiles. Et la musique gospel va les porter, va les soutenir.
Donc elle a la même fonction, finalement, que les spirituals avaient dans les champs de coton ?
Oui, simplement, on est à une autre étape, on n'est plus dans la problématique de l'esclavage. Ceci dit, il reste encore des choses à construire, effectivement. Et donc, cette dynamique prophétique qu'on trouvait déjà dans les spirituals, elle est translatée désormais dans la musique gospel, portée par les églises afro-américaines, qui, rappelons-le, sont des lieux de vie, des lieux de socialisation à l'espérance, qui effectuent un travail social tout à fait considérable. Et cette musique gospel, elle s'inscrit aussi dans un type de société chrétienne marquée par des solidarités horizontales extrêmement fortes.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une dimension politique à ce moment-là ?
Oui, elle a à certains égards une dimension politique, même si évidemment elle ne se range pas derrière tel ou tel parti politique. On n'est pas dans la politique politicienne, naturellement. Mais oui, effectivement, elle a une dimension politique dans la mesure où elle exhorte, elle encourage, elle invite chaque être humain, finalement, quelle que soit sa couleur de peau, à s'asseoir à la table du royaume de Dieu en égal.
Vous parlez du succès que ce genre nouveau rencontre auprès du public, mais est-ce que des Blancs pratiquent eux-mêmes le gospel ou est-ce que c'est vraiment réservé à la population noire américaine ?
Alors au départ, c'est une musique qui est réservée effectivement à la population afro-américaine, qui est en tout cas l'apanage de ce public et de cette population. Mais assez rapidement, avec le succès de ces musiques et le fait aussi que beaucoup de spectateurs blancs aiment assister à ces concerts, le genre va s'étendre. Et effectivement, va se développer aussi ce qu'on appelle un « white gospel » aux États-Unis. Mais alors, ce qui est un petit peu singulier, c'est que on assistera finalement à très peu de chorales mixtes. Il va y avoir d'un côté un « black gospel » qui est porté par les communautés afro-américaines et de l'autre, un « white gospel ». Dans les deux cas, on fait face à du gospel, mais il y a relativement peu de rencontres. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, quand on regarde le marché du gospel aux États-Unis, on est un petit peu frappé par cela. Il y a d'une part des chorales afro-américaines et puis de l'autre part, effectivement, des chorales de blancs. Il y a relativement peu de mixité.
En termes musicaux, l'association des instruments qui fait la particularité du gospel, qu'est-ce que ça apporte de plus ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ?
Ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que ça va contribuer à une très grande diversification de cette musique avec de multiples sous-genres. Et tout cela n'aurait sans doute pas été possible sans le rôle des instruments, qui permettent effectivement d'offrir une gamme sonore, une gamme sensorielle beaucoup plus riche que simplement la performance a cappella. Et donc ça va permettre cette diversification. Mais je crois qu'il est important, au-delà de la très grande variété de sous-genres gospel, de rappeler les points fondamentaux qui, eux, ne changent pas.
Et qui sont
un chant pour la voix, un chant communautaire, un chant porté par les églises et un chant centré sur la bonne nouvelle de l'évangile. Ça, ce sont les invariants, quelles que soient ensuite les créativités musicales qu'on peut observer, les sous-genres qui ont été créés, y compris avec des portes vers le rap aujourd'hui. Au-delà de cette diversité, ces quatre points restent intangibles.
Est-ce qu'on apprend le gospel à partir du moment, comme vous le disiez, où ce genre nouveau se développe? Est-ce que on l'étudie? Il y a un apprentissage ou il y a quelque chose au contraire de qui reste très spontané, une transmission un peu orale, informelle?
Alors ça se passe dans les églises. Cet apprentissage s'opère dans les églises et il faut rappeler, au-delà de l'apprentissage du chant, que les églises sont des lieux d'apprentissage à tout niveau. Ce sont des lieux vraiment d'accompagnement scolaire pour les enfants. On peut aussi apprendre les maths, on peut apprendre toutes sortes de choses dans les églises et on apprend effectivement aussi le chant. C'est vraiment par la pratique régulière, en particulier évidemment à l'occasion du culte dominical, que le gospel s'apprend.
Et à ce moment-là, il y a déjà des noms qui émergent ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment Thomas d'Orsay, qui est une très, très, très grande figure fondatrice du gospel. Et puis, dès l'entre-deux-guerres, il y a la grande diva du gospel, qui va d'ailleurs plus tard se produire aussi en France, Mahalia Jackson. Le nom qui surpasse tous les autres, hein, encore aujourd'hui. Enfin, si les gens connaissent un nom dans le gospel, c'est celui-là, de Mahalia Jackson, qui va déployer une carrière sur plusieurs décennies et une voix absolument exceptionnelle. Et qui va d'ailleurs accompagner aussi une partie du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Ce sera une des grandes voix qui va soutenir le mouvement des droits civiques porté en particulier par le pasteur Martin Luther King.
Vous avez souligné, Sébastien Fatt, que le gospel assez rapidement fait son apparition en Europe avec des tournées de chœurs de gospel américains. Quel est l'accueil que la France en particulier, l'Europe de manière un peu plus générale, réserve à ce nouveau genre musical ?
Alors c'est une véritable histoire d'amour. On peut dire globalement que la France a toujours réservé un accueil particulièrement chaleureux à ce qu'on appelle les Black Musics. C'est donc bien au-delà du gospel, ça inclut évidemment les spirituals également, mais ça inclut aussi le jazz, le rap. Il y a une certaine tradition française, une certaine appétence française pour ces musiques afro-américaines.
Qui s'explique comment, d'après
quelle
vous ?
Quelle qu'elle soit. Alors, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Effectivement, on peut se demander pourquoi. Je n'ai pas d'explication à cela. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment...
Que ça s'explique.
Oui, que ça s'explique. Mais c'est en tout cas une réalité et de nombreux jazzmen vont s'installer en France. Josephine Baker va également choisir la France. Et pour en revenir à notre sujet, qui est celui du gospel, des groupes gospel très connus comme le Golden Gate Quartet, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, va s'installer à Paris. Donc on n'est pas simplement là dans des groupes gospel nord-américains qui viennent ponctuellement effectuer une tournée et puis qui repartent bien vite outre-Atlantique. Mais dans certains cas, des groupes gospel se sont même installés en France. Et effectivement, les publics français répondent présents très tôt. Ça commence au lendemain de la Commune de Paris avec les Fisk Jubilee Singers. Et puis ensuite, dans la première moitié du XXe siècle, bon, de temps à autre, il y a des prestations gospel également qui retiennent l'attention. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale avec Mahalia Jackson qui reçoit d'abord le Grand Prix du disque Charles Cros en 1940. Et puis qui revient ensuite à l'Olympia, qui remplit la salle, qui enthousiasme les foules. Et d'autres, après elle, on a parlé du Golden Gate Quartet, et bien d'autres groupes aussi. Donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment là un engouement de masse pour cette musique, dans un contexte où les Français s'intéressent aussi beaucoup au mouvement des droits civiques.
Alors c'est peut-être là qu'est la clé. On s'interrogeait sur les raisons de ce coup de foudre, finalement. Peut-être que les thématiques évoquées dans ces chants parle aux Français, pays des droits de l'homme, à la France, connue dans le monde pour ça plutôt.
Absolument. Et c'est peut-être aussi une certaine manière pour les Français d'indirectement se poser des questions, mais au sujet du voisin américain. Parce que au niveau de l'espace français de l'époque, il y a aussi des enjeux très lourds liés à la colonisation, puis à la décolonisation. Et ces sujets-là sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus difficiles à évoquer directement. En revanche, lorsque ça se passe à quelques milliers de kilomètres aux États-Unis, là, on en parle effectivement très aisément, ça ne pose pas de difficultés. Et c'est une manière indirecte, peut-être, de soulever des questions qu'il serait trop compliquées de soulever au sujet de l'actualité franco-française, et en particulier des questions liées, encore une fois, à la guerre d'Algérie, la colonisation, la décolonisation. Donc, il y a cet engouement. Et le gospel est donc rempli les salles en France, mais il est totalement identifié encore à l'Amérique du Nord. Et on n'a pas tellement idée à l'époque, dans les années 40, dans les années 50, qu'il puisse devenir francophone. Cela dit, quelques passeurs vont contribuer, après la Seconde Guerre mondiale, à ce que ça change. Et il faut citer en particulier les Compagnons du Jourdain, qui est un groupe fondé par des étudiants français, parisiens au départ, mais qui vont ensuite élargir leur cercle. Ils créent un groupe dès 1947 et ces Compagnons du Jourdain vont interpréter des spirituals. Alors, ils vont le faire en anglais principalement, mais il va y avoir quelques tentatives quand même en langue française, et par ailleurs, ce sont des Français. Et donc, ils vont ouvrir une première brèche. Et puis, une autre figure très importante qu'il faut mentionner dans le processus d'acclimatation du gospel à la francophonie, c'est évidemment John Littleton. John Littleton, qui est un petit peu oublié aujourd'hui parce qu'il avait une certaine méfiance vis-à-vis des médias. Il n'a pas été beaucoup médiatisé alors que c'était une voix d'opéra absolument exceptionnelle. C'est un GI qui va épouser une Française. Il est fils de prédicateur. Il est très croyant. C'est un chrétien très fervent. Et par ailleurs, donc, il a une voix tout à fait fabuleuse. Et il va se produire dans les plus grandes cathédrales, dans les plus grandes salles de concert, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, jusqu'au Japon. Et ce John Littleton, il aime le gospel, il aime les spirituals. Il va donc interpréter de nombreux classiques des spirituals, du gospel. Il va également créer des répertoires nouveaux. Il va d'ailleurs contribuer aussi à un certain renouveau liturgique au niveau de la messe catholique, particulièrement après Vatican II, avec la nouvelle vague des messes chantées, des messes rythmées. Et il va contribuer à renouveler les répertoires. Et il va donc ouvrir une nouvelle brèche en direction de la francophonie, puisqu'il lui arrive de chanter en français.
La suite de l'histoire.
Quand on parle de francophonie, on sous-entend toujours que les quatre ingrédients nécessaires à la définition du gospel restent vrais.
Absolument.
Simplement, c'est en langue française.
Absolument. Le gospel n'est pas nécessairement en langue anglaise, effectivement. Et à partir des années 40, des années 50, il va lentement s'acclimater à la francophonie.
Est-ce qu'il il a une influence sur la musique telle qu'elle est vécue en France ? Est-ce que ça suscite une forme d'inventivité ? On pense à Saint-Germain-des-Prés, évidemment, à la rive gauche, à Paris. Ça a un lien direct ?
Oui, d'une manière générale, les black music sont à la mode. Au lendemain
Vous
de la Seconde Guerre
jazz,
mondiale,
hein.
Absolument, et on pense en particulier au jazz, effectivement, Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian, Duke Ellington.
Juliette Gréco,
absolument. Donc effectivement, il y a un phénomène d'émulation, et le gospel participe à tout cela. Et c'est intéressant parce que le gospel est aussi une musique spirituelle, ancrée dans le christianisme, mais qui n'est pas du tout connotée comme musique de bénitier, si je puis dire, c'est-à-dire réservée simplement à des experts de la religion, à des chrétiens fervents. C'est une musique qui bouscule les frontières, qui va bien au-delà du périmètre des églises, qui est très transitive et qui effectivement dialogue très volontiers, notamment avec le jazz, absolument.
Alors c'est assez paradoxal, parce qu'en même temps c'est un genre musical, parce que c'est un genre musical très associé à la prédication aussi.
Oui,
Comment ça s'articule ? Gospel et prédication.
Alors, en France, effectivement, au départ, lorsque le gospel se translate en direction des publics français, il est un petit peu détaché de son contexte social d'origine, et donc il est interprété dans des salles de concert, la plupart du temps, indépendamment d'une prédication proprement dite et du culte. Donc effectivement, ça c'est un petit peu surprenant. Cela dit, ce qu'on évoquera peut-être dans une prochaine émission, c'est qu'assez rapidement, cette musique gospel va rejoindre aussi les églises, des églises française, et du coup va retrouver ce lien assez naturel effectivement avec la prédication.
Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. I want to stop and talk with you just to tell you how I come along. I know you've heard of Joshua. He was the son of Nun. Well, he never stopped his work with God until his work was done to God.
Est-ce qu'il faut faire un lien aussi avec Martin Luther King à cette période-là et y voir une des clés du succès du gospel en France ? Cette figure emblématique des droits civiques, de la lutte pour l'égalité ?
Alors, lorsque Mahalia Jackson se produit à l'Olympia, c'est avant la grande médiatisation de Martin Luther King, et c'est déjà un succès. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse directement effectuer un lien de cause à effet entre la popularité effectivement exceptionnelle de Martin Luther King en France et l'essor du gospel. En revanche, il y a une dynamique commune. Ça, c'est tout à fait évident. On est encore une fois dans ce combat des droits civiques où la dimension d'émancipation est fondamentale et où, je dirais, beaucoup de Français ont aussi besoin d'une forme de contre-discours par rapport au marxisme, par rapport au communisme qui est à l'époque très, très puissant en France. Donc, il y a cette utopie de la libération marxiste, mais beaucoup de nos concitoyens ne sont pas nécessairement tout à fait à l'aise avec cette approche-là. Et dans cette approche du gospel, dans ce mouvement des droits civiques, il y a un contre-discours qui est également axé sur l'émancipation, mais qui ne prêche pas la lutte des classes, qui met en avant, derrière le combat pour la liberté, un Dieu qui émancipe, un Dieu qui guérit, un Dieu qui libère. Et donc, je crois qu'on est aussi dans ce contexte-là, à certains égards, d'une forme de compétition, peut-être, hein, avec un discours très sécularisé, très séculier, parfois d'ailleurs anti-chrétien, hein, qui est porté par le communisme de l'époque. On est dans un autre type de discours, mais qui lui aussi met en avant l'émancipation, qui n'est pas simplement dans l'encouragement à la passivité, dans l'encouragement au respect de l'ordre social tel qu'il est, qui met en avant le changement, mais dans une perspective chrétienne et non pas communiste ou anti-religion.
Le gospel et la France, c'est une véritable histoire d'amour. Sébastien Fatt, vous l'avez expliqué. Est-ce que le gospel et la francophonie, de manière plus large, est une réalité à souligner ou c'est assez anecdotique ?
Alors, lorsqu'on se rend sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur YouTube, et qu'on fait quelques clics, on va s'apercevoir très vite qu'il y a une créativité absolument phénoménale en matière de gospel dans la grande francophonie transatlantique. Alors, qu'entendre par là ? On va entendre par là principalement l'Afrique de l'Ouest, mais aussi les Caraïbes, la Guyane et le Québec, le Canada francophone. Et donc là, on a une sorte de quadrilatère. On a d'un côté l'Europe francophone, évidemment, mais on a aussi l'Afrique de l'Ouest, les Caraïbes, la Guyane et le Canada francophone. Alors pourquoi ce quadrilatère ? Comment l'expliquer ? Là encore, il faut remonter aux origines et remonter au commerce triangulaire, à la traite transatlantique des esclaves, puisque les esclaves, évidemment, ont été au départ prélevés en Afrique de l'Ouest par les esclavagistes. Tout est parti de là. Ils ont ensuite été conduits dans les Caraïbes, en Guyane. Et alors, on me dira, mais que fait le Canada là-dedans ? Le Canada francophone, ça paraît un petit peu curieux. Quel est le lien avec l'esclavage ? Eh bien, le lien, il est tout simple. Il est lié au fait que le Canada, au XIXe siècle, a émancipé ses esclaves plus de 30 ans avant les États-Unis. Et du coup, le Canada devenait pour beaucoup d'esclaves des États-Unis une sorte de terre promise à portée de la main, si je puis dire, où il était possible de vivre libre tout en étant afro-américain. Et dès lors, pendant plus de 3 décennies, s'est mis en place un réseau d'évasion à partir des plantations du sud des États-Unis, un réseau remontant vers le nord et aboutissant au Canada, puisque là, une fois arrivé au Canada, le shérif ne pouvait plus rien. On ne pouvait plus ramener l'esclave chez le maître planteur. C'était fini. C'était vraiment vraiment la liberté. Et ce réseau, on l'a appelé le Underground Railroad, le chemin de fer souterrain. Et il a au total permis à environ 100 000 esclaves en quelques années de fuir vers le Canada et notamment vers le Canada francophone. Donc on voit que l'esclavage est vraiment le trait d'union de cette francophonie. Et c'est à partir de ce terreau-là que dans ces différents espaces s'est développé graduellement un gospel francophone.
Oui, Jésus, je sens ton amour. Mon cœur bat comme un tambour. J'attends de toi le secours. J'ai vécu ma vie à l'envers, loin de ton sein. Montrer le point aux jours amers, tout mon cœur est à genoux devant toi, Jésus.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Donc ça veut dire que le gospel francophone canadien, québécois, est ancien. C'est pas quelque chose de très récent, là.
Il est ancien, même si au départ, il est bien plus anglophone que francophone. La dimension authentiquement francophone, repérable en tant que telle, elle est plus récente. Mais effectivement, les racines remontent au 19e siècle. Et alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des répertoires gospel francophones nous viennent de ces espaces-là, ne viennent pas de l'Hexagone, mais viennent d'une part d'Afrique de l'Ouest, d'autre part des Caraïbes, de la Guyane, et enfin du Canada francophone. Ce sont des pôles aujourd'hui extrêmement créatifs en matière de gospel francophone. Alors évidemment, le premier de très loin, c'est l'Afrique de l'Ouest. Parce que là, nous avons affaire, il y a une histoire particulière. Il y a également un marché très considérable de dizaines de millions de francophones. Il y a davantage de francophones en Afrique de l'Ouest qu'en France. Il y a également un réseau d'églises extraordinairement dynamique, hein, toutes sortes d'églises, hein, toutes les étiquettes, tout ce qu'on peut imaginer.
Et puis tout est parti de là quand même.
Et tout est parti de là, effectivement. Et donc à partir des années 70, après la décolonisation, il y a vraiment une explosion du gospel francophone, à la fois en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo RDC, au Congo Brazzaville, dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, se développent à toute allure les groupes gospel, mais aussi un véritable marché local du gospel, avec des phénomènes de starisation, des groupes qui deviennent extrêmement extrêmement célèbres, hein, extrêmement connus, très très appréciés, comme Gaël par exemple, un groupe congolais, chez Kina, groupe de Côte d'Ivoire, mais il y en a beaucoup d'autres. Charles Mumbaya était également une très très grande figure de ce gospel francophone. C'est d'ailleurs l'un des premiers qui a vraiment construit ce gospel particulier, en particulier qui vient du Congo. Et donc, ce sont des lieux de créativité, de diffusion du gospel aujourd'hui. Mais il faut parler bien sûr aussi des Caraïbes, où là, c'est un petit peu plus récent, tout simplement pour des raisons liées au marché de la musique. Le marché est plus restreint. Et donc, il y a un décalage de quelques années dans les Caraïbes. Le gospel francophone, proprement dit, s'affirme un petit peu plus tard, mais on le repère quand même à la fin des années 70, avec notamment un groupe comme les Pacifistes, un groupe antillais comme les Pacifistes, et un développement beaucoup plus important dans les années 80, dans les années 90, avec aujourd'hui aussi de grandes stars du gospel. Je pense en particulier à Jessica Dorsey, qui est vraiment une figure emblématique du gospel caribéen aujourd'hui, qui se produit dans toute la francophonie. Et last but not least, il faut bien sûr citer aussi le Québec, hein, le Canada francophone, et souligner, je dirais, au-delà de la focale sur chacune de ces aires culturelles, souligner que tout cela circule. On est véritablement dans ce qu'on appelle un territoire circulatoire de la francophonie.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que ça circule?
C'est-à-dire que les groupes, les interprètes, les répertoires circulent. Le gospel d'Afrique de l'Ouest n'est pas simplement un gospel d'Afrique de l'Ouest. Il circule en métropole, ses interprètes se rendent en France métropolitaine, se rendent aussi dans les Caraïbes, se rendent volontiers au Canada.
Et donc ils s'influencent les uns les autres?
Ils s'influencent les uns les autres. Et la révolution digitale, la révolution numérique a beaucoup contribué aussi à cette circulation. Je voudrais juste vous donner un exemple tout à fait piquant. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur ces sujets à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Et je présentais notamment un gospel ivoirien qui a été interprété par Pasteur Guy, qui a été composé il y a quelques années, je crois que c'est en 2007, par un pasteur ivoirien. Et ce gospel s'appelle « Je suis dans la joie ». Et on m'a demandé d'entonner un couplet de ce gospel, ce que j'ai fait. Et puis à la fin de l'intervention, un prêtre local vient me voir et me dit « Mais vous savez, monsieur, nous chantons ce gospel à la messe. Nous chantons ce gospel au moment de l'Eucharistie. Or, c'est un gospel qui a à peine 10 ans, qui a été créé par un pasteur protestant, en Côte d'Ivoire, donc a priori assez loin d'Angers, assez loin du Val-de-Loire. Et on s'aperçoit qu'en quelques années à peine, grâce à la révolution numérique et grâce à Internet, grâce à ces vidéos qu'on peut consulter si facilement sur Internet, eh bien le gospel s'est acclimaté en France, sans que ce pasteur d'ailleurs ne se rende lui-même physiquement en France. Et on voit à quel point la révolution digitale finalement permet cette créativité, cette fécondation réciproque hein, des gospels francophones et fait circuler, met en commun, mutualise des ressources. Et je crois que nous sommes simplement à l'aube aujourd'hui d'une véritable révolution liturgique et hymnologique portée par Internet. Ce qui demandait 40 ou 50 ans auparavant, hein, au 19e siècle, au 18e siècle, pour qu'un hymne, pour qu'un chant se popularise sur un autre continent, il fallait une génération. Il fallait une génération. Ça prenait du temps. Aujourd'hui, l'instantanéité des réseaux numériques, il faut simplement un clic, permet de faire connaître un chant quasi en temps réel, finalement, à une communauté qui se trouve physiquement à des milliers de kilomètres. C'est pour ça que vraiment, nous sommes face à un territoire en réalité qui est transnational. C'est un territoire circulatoire où tout ce qui se crée, tout ce qui s'interprète circule quasiment en temps réel.
Il y a quelque chose d'universel dans le gospel ?
Il y a quelque chose d'universel, absolument.
On l'a évoqué de manière, disons, un peu transversale à travers tous ces entretiens, Sébastien Fatt, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre avec vous pourquoi le gospel, ça fonctionne, pourquoi ça marche, pourquoi ça rejoint encore aujourd'hui un public alors qu'on l'a vu, les racines de ce genre musical sont quand même désormais éloignées de nous dans le temps et puis, Dieu merci, dans la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui.
Oui, pourquoi les publics se pressent dans les salles? Pourquoi d'ailleurs aussi les candidats à l'interprétation du gospel se bousculent, y compris d'ailleurs quand ils ne sont pas chrétiens? Pourquoi cette attractivité? Alors je crois qu'une des raisons qui explique le succès de cette musique aujourd'hui doit s'articuler au soubassement spirituel et religieux de cette musique. N'en déplaise à certaines présentations qui sont parfois faites de mouvements issus du christianisme où on a tendance à vouloir totalement déconnecter le militantisme des valeurs. Et je pense notamment à Martin Luther King, qu'on présente parfois indépendamment de son arrière-plan chrétien. Je crois que c'est dommage, parce que dans une laïcité bien comprise, il est important de montrer que toutes les familles de pensée, y compris les familles spirituelles, contribuent à la coexistence, contribuent au vivre ensemble, contribuent à faire société. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le gospel, si ça marche, c'est parce que derrière, il y a un message porté par une spiritualité. Ce message, c'est de dire « le mal est là, il y a une souffrance, il y a une injustice, il y a une situation intolérable ». Donc il y a un regard sans concession qui est porté sur la réalité du mal et qui est souvent présenté sous la forme de l'esclavage, hein, et esclavage qui peut être compris de manière sociale, mais qui peut être aussi compris d'autres manières, y compris du point de vue spirituel. Donc il y a une réalité qui est celle de la souffrance. Et je crois qu'il n'y a rien de plus universel au niveau de l'expérience humaine que cette souffrance. Dans la condition humaine, il y a de la souffrance. C'est là, c'est présent. Mais à partir de là, comment fait-on? Et ce qui est très intéressant dans la musique gospel, c'est qu'il y a une réponse qui est apportée. Et qui n'est pas apportée sur la base de la contre-attaque, de l'œil pour œil, dent pour dent, de la revanche. Nous avons souffert, vous nous avez fait souffrir, nous allons vous rendre la monnaie de votre pièce. On n'est pas sur cette base-là. On est sur la base d'un dépassement de la blessure, de la souffrance, au nom d'un des aspects du message chrétien, qui est celui du pardon, qui est un aspect fondamental du message chrétien. C'est-à-dire qu'on va essayer, par le pardon, de dépasser la situation d'impasse dans laquelle se trouve la relation, dans laquelle se trouve une société donnée, pour aboutir à une situation de réconciliation.
Donc une forme de résurrection.
Une forme de résurrection, absolument. Et je crois que ça répond à des besoins très profonds dans notre société, particulièrement dans l'Hexagone. Nous vivons depuis quelques années une situation sociale et culturelle tendue. Il ne faut pas se cacher derrière les mots. Où les marchands identitaires font fortune, où les tensions sont nombreuses et où les surenchères à la revanche, au conflit, abondent également. Et tout cela crée beaucoup de stress, crée beaucoup d'inquiétude. Et il y a besoin d'autres réponses que simplement la surenchère. Et le gospel a ceci de particulier qu'il pointe la souffrance, la difficulté, mais apporte en même temps de la restauration, apporte de la coexistence, apporte une plus-value en matière de vivre ensemble et apporte de l'espérance. C'est la résilience de Boris Cyrulnik plus l'espérance. Le gospel, c'est ça. C'est la résilience plus l'espérance.
Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but and nobody knows the trouble I
la suite de l'histoire.
Et c'est en cela qu'on peut parler, je crois, à bien des égards, d'une musique restaurative, en analogie avec ce qu'on appelle la justice restaurative. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est
que
la justice restaurative? La justice restaurative, c'est une justice qui sanctionne le mal, qui sanctionne celui qui a commis un délit. Donc il y a un processus de réparation, de sanction, d'incarcération bien souvent. Mais à partir de là, on va travailler aussi à reconstruire le détenu. On va travailler à restaurer le détenu, de manière à ce que lorsqu'il sort de prison, il soit finalement une meilleure personne que lorsqu'il est entré. Ce qui, du point de vue de l'intérêt général, d'ailleurs, est plutôt bien vu, me semble-t-il, parce que on peut comprendre qu'il est probablement préférable pour la société qu'un détenu sorte de prison avec de bonnes intentions et avec un projet de réinsertion plutôt qu'avec la rage. Et le gospel, précisément, c'est cette optique restaurative. On pointe le mal. On pointe l'esclavage, on pointe les difficultés. La souffrance, elle est perceptible dans les répertoires des spirituals et du gospel. Mais au lieu d'en rajouter dans la surenchère, on va pointer vers la restauration, on va pointer vers le pardon, on va pointer vers la grâce. Il y a une issue possible, on appelle à la réconciliation et de très nombreux répertoires contemporains du gospel francophone et notamment des gospels d'Afrique de l'Ouest, des Caraïbes, mettent l'accent sur cette dimension restaurative et manifestement ça plaît beaucoup puisqu'encore une fois, de très nombreux publics, qu'ils soient chrétiens ou pas, rejoignent ces chorales. Puis alors, je crois qu'un autre élément aussi qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on n'est pas dans une musique religieuse classique.
Alors voilà, tout ça est quand même sous-tendu, englobé ou enrichi par la musique. Et il n'y a pas peut-être de moyen de communication plus universel que la musique.
Absolument, d'autant plus que là, on est vraiment dans une musique que je qualifie de spirituelle, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la musique religieuse ou de la musique sacrée. Le sacré sépare. Techniquement, le sacré sépare. La musique...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Parce qu'il y a ce qui est sacré et il y a ce qui ne l'est pas. Au niveau de l'anthropologie religieuse, on a cette distinction classique.
Sacré, profane.
Voilà, sacré et profane. Les spirituals et le gospel, au contraire, incluent tout le monde. On est, je dirais, dans la perspective au départ protestante, mais du sacerdoce universel, c'est-à-dire que tout le monde, au travers de cette musique, peut se rapprocher de Dieu. Il n'y a pas de principe de séparation. Et ça plaît aussi beaucoup.
Une musique
parce que concrètement, aujourd'hui, ça veut dire
donc.
Quoi Voilà, restaurative et inclusive. Et concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que les chorales gospel sont très très rarement confessionnalisées. C'est des chorales qui sont multiconfessionnelles. Vous avez des protestants, vous avez des catholiques, vous avez des gens qui viennent de tous horizons chrétiens et qui viennent même d'horizons non chrétiens. J'ai à plus d'une fois, lorsque j'ai eu l'occasion d'intervenir sur ces sujets, je me suis fait approcher ensuite par des choristes qui me disaient « mais vous savez, moi je ne suis pas chrétien ». Je me souviens notamment à Marseille, un choriste qui se définissait comme athée et en même temps bouddhiste, qui me disait « mais je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites parce que le gospel lui parle, il aime chanter le gospel et pour autant il n'est pas nominalement chrétien, il ne se reconnaît pas dans la tradition chrétienne, mais il y a quelque chose dans cette musique qui transcende ses appartenances particulières, qui lui font du bien et du coup il me disait « mais je participe avec beaucoup de plaisir à cette chorale ». Alors cela dit, au bout de quelques années, on s'aperçoit que certains des choristes qui au départ ne sont pas chrétiens le deviennent parfois, ça peut arriver.
Sont touchés par ce qu'ils chantent,
absolument.
Puis c'est une expérience de groupe.
C'est une expérience de groupe, effectivement, et c'est une expérience très inclusive qui porte et donc qui peut conduire effectivement par moments à des scénarios de conversion. Mais c'est pas une musique qui est dans le prosélytisme ouvert non plus, c'est pas une musique qui est enfermante, c'est pas du tout une musique qui milite pour telle ou telle étiquette confessionnelle et du coup on se sent très à l'aise et les publics affluent quelle que soit leur origine convictionnelle.
Et il faut peut-être souligner que du gospel, vous l'avez déjà dit rapidement mais redisons-le, sont nés d'autres types de musique beaucoup plus actuel, beaucoup plus peut-être moderne ou typé, je ne sais pas comment dire, mais vous parliez du rap par exemple.
Absolument, le rap qui mériterait sans doute aussi des émissions. Là, c'est un genre plus récent, le rap chrétien.
Mais enraciné dans le gospel.
Effectivement, qui vient au départ en partie du gospel, mais qui s'en distingue sur certains accents. Je dirais en particulier qu'une des spécificités du rap, c'est qu'il a une fonction fortement prophétique. Il met en tension l'insatisfaction présente face à une perspective de changement, de revendication qui est plus véhémente, qui a une dimension
il y a plus de colère,
de revendication
dans le rap, hein.
Et peut-être aussi de colère, effectivement, de colère prophétique qu'on ne trouve pas de la même manière dans le gospel.
Bon, vous reviendrez pour parler du rap alors. Sébastien Fatt, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de l'histoire du gospel. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du protestantisme, notamment évangélique, et je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver vos ouvrages, et en particulier paru chez Empreinte Temps Présent en 2016, Gospel et Francophonie, une alliance sans frontières. Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci à Xavier François qui a assuré la technique de cet enregistrement. Thank you.